Le journal, Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Pierre et bonjour à tous. À la une de l'actualité, ce message adressé par Emmanuel Macron aux Gilets jaunes qui entament aujourd'hui leur 27e samedi de mobilisation, un mouvement qui n'a plus de débouchés politiques selon le chef de l'État. Le président de la République en déplacement à Biarritz qui a par ailleurs tiré à boulet rouge sur le Rassemblement National à une semaine des européennes, et ceci alors que Marine Le Pen sera cet après-midi à Milan aux côtés de Matteo Salvini. L'Europe qui sera également au cœur de l'entretien que vous aurez à 8h20 en compagnie de vos invités, Pierre Veille.
Oui, Sylvain Kahn et Jacques Lévy, ils sont historiens, géographes, ils publient chez Odile Jacob le pays des Européens et avec eux, bien sûr, les enjeux de ce scrutin, les élections européennes dans 8 jours.
Dans ce journal également, la réaction du laboratoire Boiron à l'annonce du déremboursement possible des produits homéopathiques. Le laboratoire Boiron qui a par ailleurs confirmé avoir reçu hier le projet d'avis de la Haute Autorité de Santé. Enfin, à 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard, avec au sommaire la finale en football ce soir de la Ligue des Champions pour les féminines entre Lyon et Barcelone, la dernière journée de la Ligue 2 de football encore, et le MotoGP, ce sera demain au Mans.
France Inter.
Pour leur 27e samedi de manifestation, les Gilets jaunes, qui enregistrent au fil du temps une baisse de leur mobilisation, appellent aujourd'hui encore à des rassemblements nationaux. Des Gilets jaunes à qui le chef de l'État a adressé hier une fin de non-recevoir. En déplacement à Biarritz en vue de préparer le sommet du G7, Emmanuel Macron a en effet déclaré lors d'une conférence de presse que ce mouvement des Gilets jaunes n'avait plus de débouchés politiques. Biarritz, Paul Nicolaï de France Bleu Pays Basque.
Il ne pouvait pas y échapper. Au même titre que les élections européennes ou la sécurité du futur G7, le chef de l'État a dû répondre à une question sur le mouvement des Gilets jaunes. Emmanuel Macron ne voit pas d'avenir à un mouvement qui refuse de se confronter à la loi du suffrage.
Je crois que celles et ceux qui continuent aujourd'hui à faire cela, il n'y a plus de débouchés politiques. Que celles et ceux qui ont une autre vision de ce que doit devenir le pays, la dessine politiquement, lui donne forme et se présente aux élections.
Une poignée de Gilets jaunes s'est mobilisée en fin de journée à Biarritz, non loin de la place Clémenceau.
Foutent nos jeunes dans la rue avec 1200 euros par mois quand ils travaillent. C'est une honte.
Dans le cortège aussi des militants basques ou altermondialistes comme Lola, jeune étudiante blessée au visage par un tir de flashball lors d'une manifestation anti-G7 à Biarritz en décembre dernier.
Voilà, nous on est mobilisables, on est là et voilà, on sera là pendant le G7, on sera là avant, on sera là après aussi. Et on espère que ça va continuer aussi à dynamiser le Pays Basque aussi au niveau de la jeunesse.
Peu de manifestants hier, pas de débordement. Nul doute qu'ils seront beaucoup plus nombreux fin août lors du sommet international.
Emmanuel Macron qui a par ailleurs ajouté qu'il avait pour sa part apporté des réponses aux Françaises et aux Français sur ce qui avait conduit à ce mouvement. Fin de citation.
Serge Martin, le dossier des Gilets jaunes donc au programme des déplacements du président de la République, mais aussi celui des élections européennes.
À une semaine maintenant en effet du scrutin européen, le secrétaire de la Ligue italienne et par ailleurs ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, organise cet après-midi à Milan un meeting et une rencontre des partis souverainistes européens dans le but de peser sur ces élections. Rencontre à laquelle participera Marine Le Pen pour le Rassemblement National, mais où l'on notera également quelques absents en dépit d'une poussée populiste à travers toute l'Europe. Rome, Mathilde Imberti.
La photo de famille se composera autour de Matteo Salvini et Marine Le Pen, chef des deux partis nationalistes qui envoient le plus d'eurodéputés à Strasbourg. La Ligue devrait même occuper 26 sièges contre 6 aujourd'hui. Le Rassemblement National 25 à l'issue du scrutin de dimanche prochain. Matteo Salvini se pose en rassembleur du camp avec la légitimité accrue de l'homme de gouvernement à un poste clé en Italie, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Malgré l'attrait qu'il représente, il n'a pas réussi à entraîner avec lui Viktor Orban, le Hongrois, et Jaroslav Kaczynski, le Polonais. Ce dernier reproche au camp Salvini notamment ses positions pro-russes. Les souverainistes partagent la scène de la Piazza del Duomo à Milan, mais pas toutes les orientations. C'est sur l'immigration qu'ils s'entendent le mieux, favorable à une Europe soudée pour stopper les flux migratoires, mais moins présente dans les autres domaines, et notamment économiques. Selon Matteo Salvini, les règles sur la dette et le déficit posés à Bruxelles affament l'Europe. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Une rencontre suivie de près par l'idéologue américain du populisme et ex-conseiller spécial de Donald Trump, Steve Bannon. Steve Bannon qui observe cette campagne pour les européennes depuis la France, prodiguant notamment ses conseils au Rassemblement National. La comparution correctionnelle de Nicolas Sarkozy semble désormais quasi inéluctable. Le Conseil constitutionnel a en effet rejeté hier l'argument avancé par les avocats de l'ancien chef de l'État dans le cadre de l'affaire Big Malion et donc le financement de sa campagne électorale.
À l'étranger, Serge, alors qu'une médiation semble être ouverte via la Norvège pour tenter de trouver une solution au Venezuela, la situation ne cesse d'empirer dans le pays, mais également à l'étranger.
Oui, en plus des sanctions financières qui affaiblissent de jour en jour le Venezuela privé d'eau et d'électricité, voilà que les répercussions se font également sentir dans les représentations diplomatiques situées à l'étranger, comme a pu le constater notre reporter Olivier Poujad, qui est allé à la rencontre de l'ambassadeur vénézuélien en France, un diplomate pour qui il est urgent de trouver une solution. Des discussions en tout cas ont débuté cette semaine en Norvège entre les membres du gouvernement de Nicolas Maduro et les représentants de l'opposition incarnée par Juan Guaido en vue d'établir un agenda pacifique, une négociation pourtant réfutée par le président autoproclamé Juan Guaido.
Vous écoutez France Inter et Serge Martin, la fin envisagée de la prise en charge des granules homéopathiques pourrait s'avérer être une bonne chose pour l'État, mais pas pour les industriels.
L'avis émis en effet par la Haute Autorité de Santé se prononçant contre le remboursement des produits homéopathiques par l'assurance maladie suscite inquiétude et remous, à commencer par le géant français de l'homéopathie, le laboratoire Boiron, qui affirme qu'un éventuel déremboursement menacerait un millier d'emplois sur les 2500 que compte l'entreprise en France, Véronique Julien.
Cet avis n'est pas définitif. Les laboratoires concernés ont 10 jours pour faire valoir leurs arguments auprès de la Haute Autorité de Santé dans l'espoir d'infléchir ses conclusions. La ministre Agnès Buzyn tranchera ensuite au mois de juin. Déremboursement ne veut pas dire disparition de l'homéopathie. Les 70% de Français qui disent lui faire confiance pourront toujours en prendre. Mais la Sécurité sociale n'assumera plus les 30% qu'elle rembourse aujourd'hui. Après avoir épluché des centaines d'études, la Haute Autorité de Santé considère en effet que l'homéopathie n'a pas scientifiquement démontré son efficacité et qu'elle n'a pas de place définie, je cite, dans la stratégie thérapeutique. Pour la Sécurité sociale, un déremboursement de l'homéopathie, c'est 100 millions d'euros de moins à débourser chaque année. Une paille comparée aux 20 milliards qu'elle dépense dans le même temps pour rembourser les autres médicaments. Pour Boiron, en revanche, les médicaments remboursés, c'est l'essentiel du chiffre d'affaires. Car si des Français restent fidèles malgré tout à ces produits, d'autres hésiteront à la dépense ou perdront confiance, tout simplement. Le groupe annonce déjà que la moitié de ses 2600 emplois en France sont menacés. Le maire de Lyon s'en est d'ailleurs ému. Dans un courriel adressé à l'Élysée hier, Gérard Collomb rappelle l'importance de l'entreprise pour la région lyonnaise où elle est implantée.
Véronique Julia, le parquet a décidé de faire appel du maintien en liberté du docteur Frédéric Péchier, cet ex-anesthésiste de Besançon mis en examen pour l'empoisonnement de 24 patients, dont 9 mortels, entre 2008 et 2016. Une activité culturelle plutôt chargée ce soir avec pour les amateurs de chansons la finale de la 64e édition de l'Eurovision en direct de Tel Aviv en Israël. Pour défendre les couleurs de la France, un jeune chanteur de 19 ans, Bilal Hassani, et sa chanson intitulée « Roi ». Et puis pour les amateurs de musées, cette fois-ci début ce soir également de la 15e édition de la Nuit Européenne des Musées. L'occasion de découvrir en marge des musées connus, des établissements méconnus ou moins connus en tout cas de votre région, comme par exemple ce musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis de Paris, un établissement qui espère bien pouvoir attirer de nouveaux visiteurs à Alice Cachaner.
Le musée est à deux pas du métro et du Stade de France, mais rares sont les passants qui osent en franchir les grilles. Comme Fanny, une habitante du quartier.
Ah, je suis jamais allée. Pourtant, j'habite juste en face.
Ce qui est dommage car le musée, installé dans un ancien couvent du XVIIe siècle, regorge de trésors dont Stéphanie Gonzalez, la conservatrice, n'est pas peu fière.
On est dans la partie qui correspond à l'hôtel Dieu de Saint-Denis, qui était un hôtel Dieu très important. Donc on a une très belle apothicairie.
C'est magnifique, hein ?
Ben oui.
Les collections de ce musée sont riches, même très riches. Dans les vitrines, on trouve des objets du Moyen-Âge. Dans les jardins, une exposition d'art contemporain ou encore un document rare, le manuscrit du poème « Liberté » de Paul Éluard. Alors comment expliquer que le musée n'accueille qu'entre 20 et 30 000 visiteurs par an ? Pour Stéphanie Gonzalez, la concurrence des grands musées parisiens y est pour beaucoup.
Dès qu'on passe la couronne de Paris, on a ce côté effectivement un peu difficile d'être des musées de banlieue. On a cette capitale parisienne qui regorge de propositions toutes les unes les plus belles que les autres. Donc c'est vrai que on est, je dirais, dans une situation un petit peu compliquée.
À l'occasion de la Nuit des musées, un concert, un escape game et une pièce de théâtre seront organisés. Le musée en profite aussi pour changer de nom et se rebaptiser Paul Éluard. Une façon de rendre hommage au poète et d'attirer aussi peut-être un nouveau public.
Alice Cachaner de France Bleu Paris. Et pour connaître le programme de cette Nuit des musées, je vous renvoie au site internet nuitdesmusées.culture.gouv. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Pierre Veille.